franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La Normandie d'Arsène Lupin. Si on en croit la chronique, en 911, il y a donc de cela 1100 ans, le roi était fatigué de devoir sans cesse défendre la vallée de la Seine face aux Vikings, et le Viking Roland était là de devoir toujours batailler ici et encore là. Le roi donna donc à Roland Rouen et ses environs, en lui imposant quelques conditions, la Normandie était née. Ceci dit, qui était Roland, on ne sait pas trop. Il arrive qu'en Normandie, la légende et l'histoire se confondent. En 1911, par exemple, qui régnait sur la Normandie millénaire? Est-ce que c'était Armand Falière? Ben non, c'était Arsène Lupin.
Comme la Touraine est balsacienne et le bois chaud marqué par Nohant, la Normandie, l'Étretat de Saint-Valery-en-Caux et de Dieppe, reste pour moi, quand je la visite, le pays d'Arsène Lupin. Le pays où les coupés 1910 font la course avec les rapides et où, sur les routes, le frénétique collégien Isidore Beautrelet, dévalant sur sa bicyclette, tourne autour de l'aiguille creuse comme la flèche de la boussole autour du pôle.
C'est une citation de Julien Gracq pour introduire l'invité de la marche de l'histoire, Jean-Louis Hézine, bonjour.
Bonjour.
Familier, naguère, de Julien Gracq, journaliste, écrivain, bien connu des auditeurs de France Inter pour sa participation depuis la plus haute antiquité au masque et la plume. Vous êtes né en Normandie.
Ah oui.
Oui. Vous parcourez la Normandie en tous sens.
Les Normandies, même, je pourrais dire, parce que le récit que vous avez fait explique qu'il y ait deux Normandies en réalité. Je pourrais dire, pour paraphraser François Mauriac au sujet de l'Allemagne, vous savez, j'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux. Eh bien, je pourrais dire, j'aime tellement la Normandie que je préfère qu'il y en ait deux aussi. Parce que notre mur de Berlin, à nous, c'est le fleuve, c'est la Seine. Donc, chaque Normand est convaincu d'être sur son vrai territoire. Et en face, on appelle ça de l'autre côté de l'eau.
Alors, autrefois, il y avait une association normande. C'est une des grandes société savante du 19e siècle qui couvrait la haute et la basse Normandie, oui. Comme c'est le cas encore de l'association des amis d'Arsène Lupin dont vous êtes membre.
La AAL, et à ne pas confondre avec la AAA.
Qui tient ses réunions.
Qui est l'association des amateurs d'andouilles.
Mais c'est pas, là, la c'est l'association AAL tient ses réunions dans les
lieux authentiques
de la lutte. Pinologie, en haute et en basse Normandie. Ici, c'était en 95, reportage de France 3 au manoir d'Angot à Varangeville.
Le banquet annuel de l'association des amis d'Arsène Lupin est une réunion de grands spécialistes des aventures lupiniennes. D'éminents lupinologues en congrès cette année au manoir d'Angot qui dissèquent, analysent et étudient les moindres agissements de l'insaisissable Arsène.
Le docteur Christian Perronnet avait fait une très belle étude psychanalytique sur le site d'Étretat, notamment, il avait attribué à l'aiguille différentes significations freudiennes.
Effectivement, j'avais fait une petite étude sur Arsène Lupin où on se rend compte qu'il a pas mal évolué, je dirais, au fil du temps, à la recherche du père, à la recherche de la mère. Et notamment dans l'aiguille, effectivement, plusieurs interprétations sont possibles sur ce site absolument grandiose.
Il faudrait peut-être inscrire à l'entrée de la ville d'Étretat, c'est pas Étretat, son vagin, son phallus, son rectum.
Alors, si j'appelle au secours l'association des amis d'Arsène Lupin, c'est parce que certains auditeurs de la marche de l'histoire vont penser que n'est pas établie l'existence d'Arsène Lupin. Mais à partir du moment où Arsène Lupin est le héros de la marche de l'histoire, il existe.
Oui, absolument. D'ailleurs, on le sait par Maurice Leblanc lui-même, qui n'a jamais prétendu être le père d'Arsène Lupin, et pour qui ça n'était pas du tout sa créature. D'ailleurs, il était parfaitement humilié par le succès de ce personnage et l'ombre qu'il lui faisait. En réalité, il s'est toujours prétendu comme le confident et même l'historiographe l'historiographe d'Arsène Lupin, exactement comme Racine a été l'historiographe de Louis XIV. Et je vous demande, Jean Lebrun, est-ce qu'on n'a jamais douté de l'existence de Louis XIV ?
De toute façon, si Arsène Lupin n'existait pas, rien ne serait possible. Ni cette émission, ni rien d'autre.
Rien ne serait possible, en effet, puisqu'il est l'homme qui renverse l'histoire et qui la rend, en quelque sorte, rationnelle.
Et puis, s'il est capable de tout, il est capable d'exister, de rencontrer donc même son auteur.
Cette existence a été attestée, pardon de vous interrompre, Jean, dès 1955, année où il y a eu deux grands événements, la signature du pacte de Varsovie, ça c'est plutôt anecdotique, mais surtout, il y a eu les preuves de l'existence d'Arsène Lupin qui ont été révélées à ce moment-là par Valère Catogan,
qui est membre aussi de l'association.
Absolument, qui est à l'origine même de cette association.
D'ailleurs, François Georges, qui a été un président visionnaire et parfois absent,
oui,
mais ça c'est très lupinien, oui, de l'association, a apporté des morceaux de preuves.
C'est dans les statuts. Nous avons le droit de disparaître de temps en temps.
Oui. Et le monceau de preuves a été présenté dans un congrès.
Lupinien. Oui, dans un congrès, alors qui s'est tenu en présence même d'un PDG de Radio France. C'était en 1986, oui. C'était Jean-Noël Jeannet. Et François-Georges est arrivé avec un dossier absolument monstrueux. Et donc, il a prononcé là-bas une conférence. Je me souviens d'ailleurs que le maire d'Étretat s'appelait Monsieur Dupin.
Encore une
preuve. Qu'il nous avait, encore une preuve. Et qu'il nous avait reçus avec fanfare et majorette. Donc, les preuves ont été à nouveau délivrées ce jour-là.
Les murs ayant des oreilles, et même trois oreilles, ils ont enregistré d'ailleurs la première rencontre de Maurice Leblanc, dont les dates sont incontestables, 1864-1941, avec Lupin.
Maurice Leblanc, mon cher auteur, mon père, c'est vous, mon créateur. Nous nous rencontrons enfin. Alors, écoutez-moi et je vais vous raconter toutes les histoires que vous avez fondées sur moi.
La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, d'après l'œuvre de Maurice Leblanc, Les aventures d'Arsène Lupin. Aujourd'hui, L'évasion d'Arsène Lupin.
Aujourd'hui, la Normandie d'Arsène Lupin. Alors, oui, on va suivre les pas de Maurice Leblanc, ça me paraît tout à fait cohérent. Oui. Il naît à Rouen, ses vacances de lycéen, il les passe dans un endroit extraordinaire, Jumièges.
Oui, Jumièges qu'il fréquentait grâce à sa famille. D'ailleurs,
L'oncle Charles et la tante Ernestine.
Voilà, absolument.
Ouais. D'ailleurs, il y a une plaque l'association sur la maison.
Oui, oui, absolument. Ouais. Il était familier d'ailleurs de toutes les abbayes normandes et Jumièges, Saint-Vendry, Saint-Georges et toutes les autres. Il en avait d'ailleurs compté sept qui étaient reliées entre elles, a-t-il découvert, par des souterrains. Ces souterrains dessinent la Grande Ourse. Ça, ce sont des choses qu'on doit évidemment à cette hauteur considérable. Vous savez que le Normand, et donc Maurice Leblanc était un Normand, bien sûr, est très spéculatif et très attiré par les mystères. Donc on peut reconnaître, c'est très Normand, je dirais ça, et on peut reconnaître là certaines choses d'esprit comme qui qu'avait Flaubert aussi, par exemple. Il faut être de Rouen, il faut être normand pour savoir que dans Madame Bovary, lorsqu'elle s'en va, lorsqu'elle s'enferme dans une calèche, rideau tiré, et que le couple s'en va dans la nuit, au hasard, dans les rues de Rouen, il faut être normand pour savoir que le parcours qu'ils effectuent dessine un phallus. Un lecteur parisien ignore ces choses-là, il les ignorera toujours.
La forêt normande, comme disait Édouard Herriot, membre de la AAA.
Oui.
Plus que de la AAL,
oui, oui, oui,
président du conseil spécialiste de l'andouillette.
Il aimait beaucoup l'andouillette.
La forêt normande, c'est par exemple la forêt de Bretonne, oui, de Jumièges. Maurice Leblanc, jeune, allait dans cette forêt, comme en 77, une équipe de France 3 s'y est rendue. Mais alors là, c'était en expédition. Roger Parment était en chef de cordée et Norbert était son valet de pied.
C'est pas par ici, là, le chemin, on peut pas passer que la voiture. Mais non, on ne peut pas passer avec la voiture, seulement le chêne, il est là-bas. Et l'administration des eaux et forêts, elle fait comme elle fait maintenant de plus en plus, ça devient une mode, elle a fait une saignée pour empêcher les promeneurs
d'aller en voiture jusque là-bas.
Norbert, venez me rejoindre. Apportez le matériel et je vais vous raconter l'histoire. C'est vraiment monumental. Il y a 4 ou 5 siècles qu'il est là.
Il est bizarre. Venez voir avec votre flash. Éclairez un peu la cuve. Et je comprends pourquoi Arsène Lupin s'était intéressé à ça, et en particulier l'auteur d'Arsène Lupin, Maurice Leblanc. Avant de continuer, je voudrais savoir si le chêne est creux. Vous devriez monter là-haut. Attendez, je vais prendre tout ça. Allez-y, quand c'est pas la figure. Moi, je suis trop lourd pour monter là-haut. Voilà, éclairez ça. Qu'est-ce que vous voyez? C'est creux ou pas?
Oui, il est creux.
Il est creux profondément?
Ou environ un mètre.
En tout cas, Maurice Leblanc a été fasciné par cet arbre. C'est pourquoi il l'a mis en scène.
Et nous l'avons mis sur notre site, la vidéo du reportage de Roger Parment. Alors, au chêne, cuve de Bretonne.
Oui, c'est un endroit que connaissent tous les Normands. Il suffit d'ailleurs, parce que c'est un chêne qui a 4 troncs. Il y en avait même 5 à l'origine. Et ces troncs forment une sorte de vase où l'eau s'accumule. Et on lui prête des vertus curatives. Sur toute pouvant, guérir toutes les maladies de peau dermatologiques. Et on sent surtout chez Maurice Leblanc, qui veut se débarrasser de ce personnage dont on prétend qu'il est le créateur, on sent chez lui une angoisse justement de le fixer dans des paysages. Parce que le paysage, les lieux, ce sont des réalités indiscutables. Donc tout est parti de là. C'est pourquoi cette œuvre s'inscrit beaucoup dans ce pays de Caux de manière obsessionnelle. Presque.
Alors le pays de Caux, là, on va sur les hauteurs du plateau. Après, on ira au bord de la mer, oui. De vastes horizons plantés de bosquets et de fermes. Sauf que le paysan cauchois n'apparaît jamais pratiquement.
Non, pas vraiment. Mais il n'apparaît jamais non plus à personne. Ah. Le paysan cauchois est souvent en repli, c'est un taiseux.
C'est le titre d'un livre de Jean-Louis Hésine. Non, taiseux, je le dis très pas beau pour, livre aussi.
Je le dis pas pour ça. Non, chez Gallimard.
Ah, oups, chez Gallimard, pardonnez-moi. J'aurais dû dire chez Gallimard.
Chez Gallimard, l'inspecteur Gallimard, oui, qui a tenté à plusieurs reprises d'arrêter Arsène Lupin.
Les taiseux.
Oui, voilà. C'est un taiseux, c'est un. C'est donc le contraire d'un diseux, et c'est un faiseux mystérieux, le paysan cauchois, on peut dire encore aujourd'hui. Donc, je pense qu'il a résisté, y compris aux facultés d'observation de Maurice Leblanc, qui pourtant était un grand familier de ces étendues. C'est un plateau crayeux, battu par le vent, avec une lumière souvent rasante, magnifique, et qu'il sillonnait à bicyclette. Vous savez que c'était un fou de vélo, Maurice Leblanc. Il a même fait un tour de Bretagne, qu'il a même prétendu avoir gagné, mais ça, on n'en est pas sûr.
C'est un point commun aussi avec vous, Jean-Louis Hésine. Vous ne collectionnez pas dans des albums les photos des châteaux du pays de Caux, parce que c'était quand même ça qui intéressait d'abord Maurice Leblanc.
C'était sa grande spécialité. C'était un collectionneur de cartes postales. Et il collectionnait en particulier toutes les photographies de châteaux, manoirs. Il a même établi un répertoire des manoirs de cette Normandie-là, donc Haute Normandie, on dirait aujourd'hui. Et il en a répertorié 400 manoirs. Il avait d'ailleurs commencé d'écrire les aventures ou de recueillir le récit d'Arsène Lupin dans un château.
Le château de Gœur, dont on va parler dans un instant, oui. Où il passe l'été entre 1900 et 1910. On avance dans la chronologie.
C'est vous dire
et c'est là qu'apparaît la Cagliostro, oui. Et que se fixe le personnage d'Arsène Lupin.
Oui, il se fixe, oui. Il faut bien. Je reviens à cette chose-là parce que Flaubert disait Madame Bovary, c'est moi. Maurice Leblanc disait Arsène Lupin, c'est pas moi. Je l'ai rencontré. On ne sait d'ailleurs pas comment ni où. Et il a tous ces personnages qui interviennent, la comtesse de Cagliostro, comme du reste Herlock Sholmès. Maurice Leblanc ne le sait qu'à travers les confidences qu'a pu lui faire. Arsène Lupin.
Mais il disait, le pays de Caux, c'est moi, c'est toute l'histoire contemporaine. Alors ce château de Gœur, c'est une grande demeure délabrée quand il y passe ses
un très beau
vacances.
Jardin.
Ouais, ouais. Des vasques.
Oui, des vasques, oui.
Un collier, non?
Pardon?
Un collier.
Ah, il y a toujours des colliers là où passe Arsène Lupin, oui.
Dès son enfance, ou dès l'enfance de Maurice Leblanc. Dans Bonnes adresses du passé, notez donc Château de Gueure sur le Pays de Caux, dans le Pays de Caux, à une quinzaine de kilomètres de Dieppe.
Oui.
C'est un reportage de Jean-Jacques Bloch, 1968.
Maurice Leblanc a fait de longs séjours ici, à Gueure, dans le château. Et c'est ici, dans cette salle où nous nous trouvons, qui s'appelait autrefois l'Orangerie. C'est ici qu'il a écrit la plupart de ses romans, parce que sa sœur demeurant au château, il venait faire de longs séjours.
Ce château est un château familial.
Oui, nous appartient depuis 1840.
Alors comment se fait-il que les Leblanc pouvaient s'y trouver?
Parce qu'à cette époque-là, certains membres de la famille ne voulaient pas habiter le château qui leur paraissait trop grand. Ils préféraient le petit chalet qui est de l'autre côté de la rivière et ils louaient le château. Et ce château a été loué justement à une des sœurs de Maurice Leblanc. Et on était toujours un peu admiratifs et surpris quand nous venions dans l'orangerie parce qu'il restait sur ce mur un morceau de carte. Des plans de la région.
Des itinéraires du pays cauchois.
Des itinéraires du pays cauchois, oui. Qui avaient été dessinés par Maurice Leblanc, justement, des tracés sur les différentes histoires qu'il a racontées.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean-Louis Hésine et Jacques Dutronc aussi, qui interprétaient la chanson qui pilotait le feuilleton de la production Naoum, d'Écrières. Le thème aujourd'hui, la Normandie d'Arsène Lupin, la Normandie à 1100 ans et en 1911, c'était Arsène Lupin qui régnait sur la Normandie. Arsène Lupin qui a enrichi peu à peu Maurice Leblanc. Pourtant, Arsène Lupin, Jean-Louis Hésine, il dépense plus d'argent à monter ses coûts qu'à en totaliser les bénéfices.
Oui, c'est un homme d'honneur. C'est un redistributeur de biens. C'est une sorte d'économiste avant la lettre. On a pu dire avec assez d'exactitude que c'était une sorte de Robin des Bois balnéaire du XXe siècle.
Alors, balnéaire. Maurice Leblanc devient riche grâce à Arsène Lupin.
Grâce aux confidences d'Arsène Lupin.
Ouais,
oui.
Il va acheter en 1919 à Étretat une propriété qui s'appelait le Sphinx. Hein,
il s'appelait le Sphinx et qui appartenait à un éditeur bien connu sur la place de Paris, qui s'appelait Monsieur Fasquel. Il l'a racheté. Il a d'abord séjourné plusieurs étés, puis ça lui a beaucoup plu, et Fasquel la lui a revendu. Et il a nommé cet endroit le Clos Lupin.
Alors maintenant, pour que ce soit plus identifiable par le touriste, ça s'appelle le Clos Arsène Lupin. La petite fille de Maurice Leblanc avait racheté la maison en 98-99 pour en faire un musée, et elle vient de la vendre aux collectivités locales de Normandie, Haute Normandie et conseil général de Seine-Maritime et mairie d'Étretat.
C'est ici, à ce bureau, que je travaille, que j'invente. Ici, à Étretat, non loin de la falaise et de la fameuse aiguille.
Approchez, je vais vous faire une confidence. Le trésor de l'aiguille, eh bien, il est ici. tout simplement. Le secret de l'aiguille est resté à Étretat.
Le clos Arsène Lupin change de propriétaire. Ce mardi 8 février, la petite fille de Maurice Leblanc a annoncé officiellement la vente de la maison et des collections à la région Haute-Normandie, au département de Seine-Maritime et à la ville d'Étretat.
J'ai travaillé pendant 12 ans pour refaire ce musée à la gloire de mon grand-père et d'Arsène Lupin. Et j'avoue que j'aurais été tout à fait navrée que mon œuvre, si je puis appeler ça comme ça, disparaisse complètement. Donc de cette façon-là, c'est très très bien.
Étretat. Alors, Étretat, c'était Deauville avant Deauville. C'était la grande
cité balnéaire. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de Deauville, mais enfin, continuons
sur
Étretat.
Non, ça n'a pas de... c'était une ville qui avait toujours attiré les artistes. D'ailleurs, donc, Maurice Leblanc, mais aussi Maupassant. Il y avait une petite maison. Vous avez ces petites maisons construites en fait dans des coques de bateaux qu'on appelait des caloges. Et Maupassant avait appelé cette petite maison la Guillette, à cause de son prénom. Guy avait propriétaire de la Guillette. Et le jeune Maurice Leblanc a fait sa connaissance, mais...
Il aurait bien aimé être Maupassant.
Il aurait adoré être Maupassant. Maupassant ne l'a pas très bien reçu. D'abord, il était déjà atteint de cette maladie nerveuse qui allait l'emporter, et il trouvait que l'usine à gaz d'à côté faisait beaucoup trop de bruit. Enfin, il était de mauvais poil. il aurait voulu, c'est vrai, être Maupassant, il aurait voulu être Flaubert. Flaubert, qui l'appelait par son petit nom, Gustave. N'oublions pas que sa mère, Maurice Leblanc, a été accouchée par le frère de Flaubert, Achille.
Il y a toujours dans un village normand quelqu'un qui connaît la
génération. C'est vous dire si le monde est petit. Oui. Le monde est tout petit, surtout là-bas. Et d'ailleurs, vous... il est à noter aussi que on a tous un pharmacien, n'est-ce pas ? Maurice Leblanc avait aussi un pharmacien. Eh bien, la femme du pharmacien n'était autre que la fille du personnage qui avait inspiré Emma Bovary et Flaubert. Donc, vous voyez, on nageait dans le...
mais Étretat.
On nageait dans un spasme qui a toujours été le spasme de l'ambition de Maurice Leblanc. Être Flaubert ou être Maupassant ou rien.
À propos de nager,
la rencontre avec Arsène Lupin, c'est un drame. Parce qu'à partir de ce jour-là, il sait qu'il ne sera jamais Maupassant, ni jamais Flaubert.
Moi, je suis devant vous comme Gallimard devant Arsène Lupin. Je suis obligé de baisser les bras de Guerlas. Mais vous disiez, on nage. Ce sont des plages de galets.
Oui, ce sont des plages de galets. D'ailleurs,
c'est mieux à Deauville, quoi.
C'est très incommode, mais en même temps, pour tenir à Étretat, il faut avoir un grand équilibre. D'ailleurs, Victor Hugo avait hasardé son pied jupitérien sur les galets d'Étretat. Il disait, mais c'est insensé, j'ai l'impression de marcher sur des crânes avec des cheveux verts. Ce qui était horrible, on patinait à cause en plus des algues. Et moi je pense d'ailleurs, enfin il y a une théorie qui dit que l'Homo erectus s'est redressé probablement à Étretat. Parce que vous ne pouvez pas faire autrement, sinon vous êtes par terre.
Et puis d'ailleurs, alors, à Étretat, c'était donc, aussi là qu'était le trésor des rois de France. Alors dans l'aiguille, au large de la plage de Galets, très très belle histoire. Il paraît qu'avant l'occupation, des alpinistes ont grimpé au sommet de l'aiguille. Ils ont planté le drapeau tricolore. Maurice Leblanc vivait encore. Oui. Et il aurait continué de flotter pendant toute l'occupation parce que personne ne pouvait le décrocher à l'aiguille.
C'est Guerchard qui est en train de faire sauter l'entrée de l'aiguille.
L'aiguille creuse ?
L'aiguille creuse.
On est dedans, il est fou !
Non, nous ne risquons rien.
Mais nous ne sommes pas à l'intérieur de l'aiguille d'Étretat ?
Absolument pas. Nous sommes dans la falaise d'Étretat, mais pas dans l'aiguille.
Arsène, tu exagères. Tu n'as encore rien dit à ton ami.
L'aiguille creuse n'existe pas. C'est une invention de journaliste.
Mais pas du tout. C'était une gâchette merveilleuse, tellement visible que jamais personne ne l'a soupçonné.
Mais je dois te l'avouer, très rustique, humide et dépourvu de confort.
Bon, d'accord, l'aiguille creuse a existé. Mais le parchemin, c'est une fable ?
Je demande bien pardon. Guillaume le Conquérant a été pour moi un précieux collaborateur.
Oui, bien sûr que l'aiguille creuse... Je ne sais pas pourquoi l'aiguille creuse a existé. Elle existe, c'est la bonne formule. Cette cité, d'ailleurs, balnéaire, il n'y a pas eu qu'Arsène Lupin, il y a eu Alphonse Karr, c'est lui qui avait lancé la station au milieu du 19e, l'humoriste. Il y a eu Offenbach, qui est venu avec son violoncelle, qui a composé bien des œuvres aussi là-bas. Et ils ont tous les deux, d'ailleurs, leur buste dans la mairie de d'Étretat.
C'est fou, des rencontres internationales qui peuvent se produire en Normandie. Par exemple, c'est en Normandie que Sherlock Holmes... On dit Sherlock Holmes ?
Alors, ça dépend. On dit Sherlock Holmes si on est du côté de Conan Doyle, mais si on est plutôt favorable à Maurice Leblanc, on l'appellera Herlock Sholmes.
Donc, flanqué de son fidèle Wilson, puisque oui, vous êtes du côté
d'Arsène
Lupin. Oui,
parce qu'on dirait Watson de l'autre côté, mais en effet, il s'agit bien de Wilson.
Va rencontrer à Thibermesnil. Alors, Thibermesnil, est-ce que c'est Thibermesnil ? Est-ce que c'est Thibermont ? Ça, on ne va pas en discuter à l'infini. Arsène Lupin.
Écoutez-moi bien, Sholmes. Je vais déposer ce collier dans le souterrain secret de mon château de Thibermesnil en Normandie. Je vous donne 4 jours pour découvrir l'entrée de ce souterrain et pour récupérer le collier. Si vous échouez, et vous échouerez, je ferai savoir à toute la presse que vous avez perdu contre moi une fois de plus. Et si je trouve, le collier sera à vous. Vous le rendrez à ce guignol et je le lui reprendrai. Dans 1 heure, je ferai déposer les clés de Thibermesnil à votre hôtel. À vous de jouer, l'Angleterre.
Compte sur moi, la France.
De toute façon, la France l'emporte toujours dans une rencontre internationale.
Oui, bien sûr, oui.
Parce que la France rêve et imagine. Oui. Sherlock Holmes, c'est quelqu'un qui déduit... Raisonne.
D'ailleurs, vous savez que cet épisode a provoqué une grande fureur chez Conan Doyle. Il était absolument furieux d'avoir été humilié de cette façon.
Dites-moi à propos de rencontres internationales.
Et cependant, puisque vous me posez la question, Arsène Lupin n'a jamais fait le V de la victoire, malgré cette magnifique victoire sur sur l'espiègle britannique. Et vous savez pourquoi ? C'est que la lettre V est funeste au cambrioleur dans son métier. C'est la lettre V est la 22e lettre de l'alphabet. Elle est assimilée donc à la police. Vous savez, 22 les V-là. Donc vous n'avez jamais de V de la victoire chez... D'ailleurs, peut-être l'avez-vous remarqué, mais si vous ajoutez la lettre V à toutes les lettres qui composent le nom d'Arsène Lupin, et que vous jetez ça du haut d'une falaise, si vous êtes à Étretat, vous verrez qu'en bas, le petit vent cauchois, qui est un vent très fantaisiste, vous aura fabriqué cet anagramme « Rien ne va plus ».
La falaise est l'image du destin de l'homme, dit François Georges, autrefois président de l'Association des Amis d'Arsène Lupin. Alors, toute l'œuvre de Maurice Leblanc, bouquin Lafon, l'œuvre plus mince mais très belle de Jean-Louis Aisin, chez Gallimard, Les Taiseux, sur notre site, une vidéo concernant le château de Bretonne. On se retrouve lundi prochain, l'équipe de la Marche de l'Histoire, Jacques Sigal, Camille Poux-Jalaguier, Franck Olivard, Frédéric Martin. Et à la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Pascal Baldassari.